pour cette conférence-rencontre exceptionnelle, importante, puisque nous avons le plaisir, l'honneur, l'avantage, bref, on est content d'avoir Igor et Grishka Bogdanov avec nous. On va essayer de parler de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire. On va évoquer évidemment Temps X, on va évoquer évidemment tout l'aspect vulgarisation scientifique avec des nouveautés, puis en plus on a discuté un petit peu en préparation et encore plein de choses à dire de ce côté-là. On va parler des nouvelles et puis de la science-fiction, quel rapport, où ils en sont par rapport à la SF aujourd'hui. Peut-être simplement un petit mot pour se remémorer quelques bons souvenirs. Les débuts de Temps X, comment ça s'est fait cette affaire, cette émission de télé, il y a 30 ans aujourd'hui?
Oui, nous sommes en 1979. D'abord, bonsoir à tous.
Bonsoir. Et ravi de vous retrouver, puisque on se connaît depuis Temps X, au moins déjà ça.
Oui, donc on peut dire bienvenue à tous dans Temps X.
Et bienvenue dans la quatrième dimension. Ça nous fait sincèrement plaisir, parce qu'on a rencontré tout à l'heure beaucoup de monde à la signature qui nous ont dit Temps X, c'était pour nous le moment qu'on attendait le samedi après-midi à 16h sur TF1. Et effectivement, tous les samedis, on s'est retrouvés avec vous, ou avec vos parents, ou avec vos enfants. Donc, à ce rendez-vous de la quatrième dimension. Et on a le sentiment que c'était il y a déjà un certain temps, mais en même temps, c'était là. Comme quoi, le temps est une illusion. Et cette illusion qui nous fait partager l'émerveillement, ça nous fait aujourd'hui la possibilité et le plaisir de vous retrouver, et d'avoir la joie, au fond, de partager quelques instants, peut-être 40, 45 minutes avec vous, pour évoquer Temps X et bien d'autres choses.
Et pour répondre à ta question sur les débuts de Temps X, en fait, Temps X est né de notre passion pour la science-fiction, parce que nous avions, Grishka et moi, écrit un livre qui s'appelle « Clé pour la science-fiction », qui était un livre dans lequel, d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un nous a amené, c'était quand même un survivant de l'infini, celui-là, parce que c'est un livre qui sentait la bibliothèque et la poussière, et qui a été qu'on a signé donc pour quelqu'un ici, et qui était donc un recueil dans lequel nous avons tenté de présenter la science-fiction sur la base de la passion que nous avions eue à en lire. Nous avions lu beaucoup de livres dans le domaine de la science-fiction de l'âge d'or, de l'âge classique, etc. Enfin, beaucoup d'auteurs. Et puis à un moment donné, nous avons eu envie d'en parler. On a donc publié ce livre, et le succès, ce petit succès à cette époque-là de ce livre, a fait que TF1 nous a proposé de créer une émission autour des thèmes que nous abordions dans ce livre, les mutants, les extraterrestres, les autres mondes, etc. Et à partir de là, eh bien, est né Temps X.
Quels sont vos grands souvenirs de ces 10 ans d'émission?
Les grands souvenirs, ce sont des grandes rencontres. Par exemple, ce jour où nous sommes en face de Bill Gates. Bill Gates était complètement inconnu. On est en 1980, à cette époque-là, Bill Gates commence son aventure avec Microsoft. Mais à cette époque-là, nous sommes donc aux États-Unis, nous faisons un film sur l'aventure de ce géant de l'informatique qui était encore un nain à cette époque-là, ou en tout cas c'était un géant plein d'espérance, mais qui n'avait pas atteint évidemment la taille qu'il a aujourd'hui. Et Bill Gates, ça c'est une petite anecdote mais qui est très amusante, nous sommes donc dans les installations de tout petits bureaux où il y a 2 ou 3 ingénieurs qui bricolent encore sur ce programme qu'on appelle Microsoft.
L'ancêtre de Microsoft.
Exactement. Et donc, à un moment donné, on est en face d'une machine à café. Et Bill Gates, qui a à ce moment-là, bon, il a un Bermuda, il a un t-shirt, et il se tourne vers nous, il dit « It's ridiculous, I don't have any money. Do you have a coin ?» Et on lui dit oui, il nous dit c'est ridicule, j'ai pas d'argent, mais est-ce que tu as juste une pièce de monnaie? Je lui dis oui, mais tiens. Et donc on lui donne une pièce de monnaie. Et ce qui est drôle, c'est que Bill Gates ne nous a jamais remboursé. Il nous doit de l'argent.
Et alors ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il est venu l'année dernière à la Sorbonne pour faire la présentation de la table graphique de Microsoft. Et nous étions parmi les convives. Et à un moment, il nous reconnaît. Et donc il vient vers nous. Et comme ça, parce qu'il avait vraiment le souvenir de ça, parce qu'entre temps il y avait eu des films, donc il savait qui on était, etc. Il fait là, yeah, I'm sorry, I have no money here. Voilà, ça c'est une anecdote qui vient directement de la quatrième dimension.
C'est la quatrième dimension, c'est ton X en fait. Hein.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus dur aujourd'hui de parler de science-fiction ou de science à la télé par rapport à l'époque?
En fait, c'est toujours difficile de parler de science à la télé parce qu'il y a un gouffre entre... pas du tout entre vous et ceux qui en parlent, hein, pas du tout les téléspectateurs, mais disons que les programmateurs se font une idée de la science qui est complètement mythique, en quelque sorte. Ils en exagèrent la complexité et ils sous-estiment le désir du public de voir aborder ces thèmes. Donc du coup, peut y avoir un décalage.
Et il faut savoir qu'à la télévision, enfin ceux qui font la télévision, ce sont moins ceux qui sont devant l'écran que ceux qui décident des programmes qui vont être diffusés sur l'antenne. Et les décideurs, les programmateurs, les responsables, etc., ont, je crois, globalement, peur de la science-fiction et peur de la science. Donc cette double peur induit, c'est vrai, des crispations. Dès qu'on propose une émission scientifique, tout est compliqué. Il faut toujours essayer de minorer le message. Il faut toujours essayer de se mouler dans le désir, entre guillemets, idéal tel qu'il est vu et tel qu'il est perçu par le programmateur et qui n'est pas du tout le désir du public. Parce que le public, lui, on l'a bien vu, on l'a bien senti au moment où on faisait Temps X, on était libre de faire, de proposer les programmes qu'on voulait et de faire les choix de programmes qui étaient les nôtres. Et du coup, c'est vrai, je crois qu'une grande part du succès de Temps X venait de là. Par la suite, il y a eu un durcissement. Je pense que ce durcissement est coïncident avec la privatisation de TF1. À cette époque-là, quelque chose a basculé dans la télévision en général, parce que TF1 a pesé très très lourd dans le paysage audiovisuel, dans les choix de programmes et bien entendu dans la conscience des programmateurs. Du coup, c'est vrai que la science-fiction, s'en sont trouvés, je crois, assez minorés et n'hésitons pas à le dire. Je crois qu'elles en ont souffert. Elles en ont souffert. Elles continuent d'en souffrir et on tente tout ce qui est possible justement pour faire en sorte qu'elle soit mieux représentée à la télévision.
Où vous en êtes de la science-fiction? Vous en lisez encore? Vous regardez encore beaucoup de films? Quel est votre rapport aujourd'hui?
La science-fiction, elle ne nous quitte pas. Enfin, on est évidemment toujours en contact avec elle, d'abord parce qu'on en lit, ensuite parce qu'on fait des émissions dont certains aspects frôlent la science-fiction en permanence. Bien sûr, on voit quantité de films. Et puis, en ce moment, on est engagé dans l'écriture d'un roman. On a écrit quelques nouvelles de science-fiction il y a pas mal de temps maintenant. On a écrit aussi un roman de science-fiction qui s'appelle La mémoire double. Et puis, nous est venue l'idée, après avoir écrit quand même pas mal de bouquins de vulgarisation scientifique, de faire un retour vers le roman. C'est-à-dire, mais le roman où l'imaginaire occupe une place, est au cœur. Voilà. Donc, ça s'appelle de la science-fiction.
Hein. Est-ce qu'on peut en dire un mot sur l'intrigue, peut-être? Ou pas encore? Comme vous voulez.
Si, on peut en dire un mot, mais en fait, comme c'est une intrigue toujours un peu... Bon, c'est pas une intrigue simple, c'est une intrigue un peu complexe, qui part d'une énigme scientifique qui existe bel et bien dans une université aux États-Unis. Il existe un ouvrage, qui est un ouvrage indéchiffrable, sur lequel les linguistes du monde entier, depuis des années, s'interrogent. Et c'est à partir de cette interrogation-là, de ce mystère, que nous avons eu l'idée, Grishka et moi, de créer un roman qui est appelé, évidemment, à projeter les personnages dans une aventure qui a aussi un fond cosmologique. Enfin bon, c'est une vraie aventure dite de science-fiction, enfin, au sens le plus riche du terme.
Vous avez toujours lié science et science-fiction. Pour vous, c'est véritablement tout le sel de la SF?
En fait, moi, je disais tout à l'heure, dans une petite conférence comme ça qu'on a eue avec quelques journalistes, que pour moi, la science et la science-fiction sont liées par des liens de parenté extrêmement profonds. C'est vraiment un cousinage au sens strict. La science et la science-fiction sont inséparables l'une de l'autre. Je pense que dans les deux cas, mon Gérard Klein, qui était là tout à l'heure, en son temps, écrit des choses très très belles sur la position justement de l'écrivain de science-fiction par rapport au réel. L'écrivain de science-fiction crée une théorie sur le réel. À partir de cette théorie, il va créer des prédictions sur le réel. Le scientifique, lui, dans son laboratoire, il fait la même chose. Il crée des théories et puis il va confronter ces théories à la réalité. C'est-à-dire que les prédictions qui vont naître de cette théorie vont être ensuite confrontées à la réalité. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on a des théories et des prédictions. Donc, finalement, bon, bien sûr, les prédictions de l'écrivain de science-fiction sont beaucoup plus lointaines. Quelques-unes ne seront vérifiées. La plupart ne sont pas vérifiées, du vivant de l'auteur, en tout cas. Mais il s'agit bien de la même position du côté de celui qui est l'auteur de cette théorie. Et c'est ce qui faisait dire, d'ailleurs, à Einstein, finalement, ce qui compte en science, c'est moins les connaissances que l'imagination. L'imaginaire est au centre, est au cœur même du geste de création.
Et l'auteur de science-fiction, vous qui en lisez, vous le savez évidemment, est extrêmement rationnel. La contrainte qu'il s'impose est une contrainte bien plus grande que celle que rencontre l'auteur du mainstream, de la littérature générale. Parce que le jeu des possibles implique que leur dénouement, ou en tout cas leur combinaison, soit dominé dans un contexte qui est toujours soluble du point de vue de la rationalité. Donc, on a les mêmes types de contraintes qu'un mathématicien lorsqu'il rencontre un théorème à expliciter, ou un physicien théoricien, ou même un physicien expérimentateur, lorsqu'il est en face, effectivement, d'un problème scientifique déterminé.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, je refais une petite parenthèse sur le roman, vous qui faites de la vulgarisation scientifique, qu'est-ce qui vous a envie de rentrer, pour le coup, dans re-rentrer dans la narration et dans l'imagination vraiment d'une histoire?
Ce qui nous a donné envie de rentrer dans la narration de l'histoire, c'est tout simplement, encore une fois, de replacer l'imaginaire au cœur même de la démarche, entre guillemets, scientifique. Bon, la démarche scientifique, elle est tout de même bridée par le bord du réel en permanence. C'est-à-dire qu'on est confronté, quand on fait de la science, bon, Grishka et moi, on a été quand même pendant des années confrontés à ces problèmes-là. Quand on s'interroge sur le mystère du Big Bang, quand on essaie de percer le mystère de ce qui s'est passé avant le Big Bang, a fortiori, on est quand même en permanence environné par des contraintes qui sont des contraintes des outils mathématiques qu'on utilise, des théories qui existent, des prédictions qu'il faut établir autour de ces théories, etc. Donc du coup, c'est vrai que l'imaginaire, il existe, il est là, parce que sans quoi, si on ne s'aventure pas dans l'imaginaire, à travers l'imaginaire, dans ces questions, on n'aura même jamais la chance de se les poser, ces questions-là. Mais quand même, c'est un travail qui exige des sacrifices, et ces sacrifices, on ne les puise pas du côté de la réalité, mais plutôt du côté de l'imaginaire. C'est là qu'on va les faire. Donc on bride son imaginaire. On aimerait aller plus loin. En science-fiction ou en littérature, c'est pas du tout la même chose. On peut aller aussi loin qu'on le souhaite, parce qu'il s'agira, quand on aura bâti son univers, au fond, bon, chaque auteur de science-fiction, et ceux qui sont ici dans la salle le savent bien, est un faiseur d'univers. Il s'agit de créer un univers, mais il s'agit de le créer de manière suffisamment cohérente pour que le lecteur retrouve, à travers des règles précises, une image du réel, de ce réel-là. De ce réel-là qui n'est pas comparable à aucun autre, mais dans lequel on va retrouver quand même des liens plus ou moins diffus au réel, au sens global du terme.
On va parler des livres, pour le coup, de vulgarisation scientifique. Il y en a eu plusieurs sur ces dernières années. On va peut-être les explorer un à un. Il y a notamment Au commencement des temps. Alors, de quoi parle-t-il très précisément celui-ci ?
Bien, vous qui nous écoutez en ce moment, vous avez tous, à un moment ou à un autre, été traversés par cette question. Est-ce que le temps, celui que j'expérimente à chaque instant, est-ce que le temps a, oui ou non, un commencement ? C'est une question qui est typiquement livrée à des auteurs de science-fiction depuis très longtemps, mais c'est aussi livrée à notre propre questionnement individuel à chacun de nous. Et nous nous sommes trouvés, Igor et moi, au croisement de cette question, il y a déjà quelques années, au moment où, comme le disait Igor, nous avons décidé de nous intéresser de manière approfondie, scientifique, à la création de l'univers. Alors, au fond, là, nous rejoignons une ambition qui est partagée par nombre de scientifiques, la plupart, qui aujourd'hui savent que l'univers, c'est-à-dire le temps tel que nous le connaissons, tel que nous le mesurons avec nos montres, a un commencement déterminé. C'était il y a 13 milliards 700 millions d'années, exactement. Et là-dessus, tous les scientifiques, tous les cosmologues, comme on dit, les cosmologistes, sont d'accord, les physiciens théoriciens, pour dire oui, l'univers a commencé, et le temps a commencé, le temps réel a commencé, il y a 13 milliards 700 millions d'années, par un événement que vous connaissez tous, dont vous connaissez tous le nom, qui s'appelle le Big Bang. À partir de là, ce temps qui est mesuré par nos montres, nous savons le dater et nous savons qu'à un certain instant, il a commencé. Sauf que, je vais peut-être vous surprendre certains d'entre vous, parce que cet instant-là, cet instant du Big Bang, cet instant que Einstein, au début, lorsque un physicien russe lui a dit « l'univers a un commencement, donc le temps commence », Einstein, qui refusait cette idée, aujourd'hui, tous les scientifiques le savent, l'univers a bel et bien un commencement à cet instant-là. Or, cet instant n'est pas l'instant zéro. Ce n'est pas l'instant zéro. C'est un temps très petit, minuscule, le plus petit des temps que l'on puisse imaginer, la plus petite fraction d'instants que l'on puisse imaginer, et que l'on appelle le temps de Planck. Le temps de Planck, c'est véritablement très petit. C'est 0,1 virgule, donc, et 42 zéros derrière la virgule, et un tout petit 1. C'est 10 puissance moins 43 secondes. C'est des milliards de milliards de milliards de fois plus petit que n'importe quel des plus petits instants que l'on puisse concevoir. Et c'est à cet instant que démarre le Big Bang. Mais ce n'est pas l'instant zéro. Le temps de Planck n'est pas l'instant zéro. Et ce que nous nous sommes demandé, Igor et moi, c'est, mais est-ce qu'il y a un instant zéro? Est-ce qu'il y avait quelque chose, est-ce qu'il y avait une forme du temps qui a précédé l'origine du temps réel sur lequel tous les physiciens du monde sont aujourd'hui d'accord? Autrement dit, est-ce qu'il y a un pré-espace-temps, quelque chose avant le Big Bang, et comment atteindre ce quelque chose? Et est-ce qu'il existe un instant ultime qui marque la création véritable, absolue, le commencement de notre réalité? Et c'est comme ça qu'est né à la fois notre double effort de travail en mathématiques et en physique. Pendant quelques années, enfin même pendant presque 10 ans, on a travaillé sur cette question. C'est pour ça qu'on s'est retiré complètement de la télévision à cette époque-là. Au début des années 90, on referme en quelque sorte le livre de temps X et on plonge dans le temps, mais une autre forme du temps. C'est une façon différente en quelque sorte de voyager dans le temps pour aller très loin jusqu'à cet instant zéro. Et en effet, on a trouvé un certain nombre de choses qui ne sont pas les réponses définitives, bien sûr, mais qui, malgré tout, nous ont permis de remonter avant cet instant extraordinaire, cet instant fabuleux qu'on appelle le temps du Big Bang, donc l'instant du Big Bang, l'instant de Planck.
Peut-être ou...
Non, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que je peux continuer, en effet, sur la lancée et sur la trajectoire donc, de cet instant de Planck que Grishka donc, vient de décrire. Pendant des années, Grishka et moi, nous avons été fascinés par tout ce qui se passe, tous ces événements qui se précipitent à 10 puissance moins 43 secondes après le début. Et pendant des années, nous avons buté sur cette limite qui était donc la limite, ce que les physiciens appellent le mur de Planck. Il faut imaginer une barrière d'énergie qui est tellement puissante que rien, en tout cas dans les années 90, aucun outil mathématique n'était suffisamment puissant pour traverser cette barrière qui était donc la limite ultime sur laquelle tous les physiciens étaient d'accord, qu'ils appelaient donc le Big Bang, l'énergie du Big Bang, 10 puissance 32 gigaélectronvolts, une énergie absolument inimaginable, mais qui était tellement puissante qu'on ne pouvait pas imaginer quelque chose derrière ou au-delà.
Il faut se représenter d'ailleurs ce qu'était l'univers à ce fameux instant de Planck. Au moment où le Big Bang commence, l'univers est tout petit, 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 petit. À la première seconde de sa vie, l'univers, le rayon caractéristique de l'univers visible, de l'horizon, comme on dit, est extrêmement petit puisqu'il fait à peine 10 cm. C'est-à-dire que tous les physiciens aujourd'hui sont d'accord pour dire que juste après ce qu'on appelle l'inflation cosmologique, eh bien, l'univers est gros comme une orange ou comme une pomme. Donc, il est extrêmement petit. C'est la première seconde de vie de l'univers. Mais quand on passe en dessous de cette première seconde, là, des événements inouïs se précipitent jusqu'à ce qu'on atteigne la fameuse longueur de Planck, 10 moins 32 ou moins 33 cm. Et à cet instant-là, l'univers est 1 milliard de milliards de milliards de fois plus petit que le noyau de l'atome d'hydrogène. Vous imaginez? C'est tellement petit. Cette toute petite fraction, cette petite étincelle de réalité qui n'est rien, presque rien, elle est cependant là, mais elle contient déjà toute l'énergie à partir de laquelle, effectivement, l'univers va engendrer les milliards de galaxies, et dans chacune de galaxies, les milliards d'étoiles et probablement de planètes qui gravitent autour de ces étoiles. Toute cette matière visible, mais aussi la matière dite noire, invisible, et aussi ce que l'on appelle aujourd'hui en physique théorique l'énergie sombre. Tout ça était contenu dans une particule qui était un milliard de milliards de milliards de fois plus petite, c'est un chiffre exact, que l'atome d'hydrogène, que le noyau de l'atome d'hydrogène. Ceci est très mystérieux. Ceci devrait déjà vous amener à sortir de la représentation traditionnelle que l'on a de la cosmologie, de l'univers à grande échelle, des étoiles, des galaxies, des nébuleuses à l'infini. C'est ce qu'on se représente. Mais il faut penser un instant ce que signifie la compression de toute cette réalité en quelque chose qui est un milliard, deux milliards, deux milliards de fois plus petit que le noyau d'un atome d'hydrogène. Enfin, c'est une provocation pour l'esprit qui est inouïe. C'est presque intenable. C'est presque comme si le plus audacieux des auteurs de science-fiction avait écrit une page en disant « L'univers a commencé en étant une toute petite étincelle de réalité, un milliard, deux milliards, deux milliards de fois plus petite que le noyau de l'atome d'hydrogène. » J'espère que ça vous provoque et j'espère que vous ressentez quand même un choc, que vous êtes incrédule en fait devant ça, que vous ne me croyez pas. Et vous avez raison de ne pas me croire parce que finalement, il y a de l'incroyable dans la science. En même temps, vous n'avez pas raison parce que finalement, la science dit vrai sur ce point. Et de ce point de vue, nous avons, Igor et moi, été amenés à petit à petit chercher à comprendre en quoi cette étincelle de réalité dont on parle, en quoi elle se raccorde à une réalité. Et surtout, est-ce qu'il y avait quelque chose avant? D'où vient-elle, cette étincelle de réalité?
Alors, d'où vient cette étincelle de réalité? Pardon de te couper la parole.
Non, pas de souci.
Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette étincelle de réalité? Ça, c'est une question à laquelle, pendant très très longtemps, Grechka et moi, c'est vrai, nous avons tenté de trouver une réponse. Et en fait, la réponse, on ne la trouvera pas si on reste, si on contemple cette étincelle de réalité depuis notre univers à nous. C'est-à-dire, en fait, si on essaie d'appliquer à cet univers naissant les mêmes propriétés que celles de l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que l'univers est immense. On sait que depuis son apparition, il y a 13 700 millions d'années, il a subi ce qu'on appelle une expansion extraordinaire. Et un peu comme un ballon qui gonfle, il a atteint aujourd'hui un rayon caractéristique qui est absolument gigantesque. On peut ainsi remonter, on voit l'univers jusqu'à 13 700 millions d'années. C'est-à-dire, en fait, son rayon est extrêmement vaste. Et ça, c'est l'univers observable, parce que l'univers réel, lui, est encore beaucoup plus vaste, parce que la lumière n'a pas encore eu le temps de nous parvenir depuis les régions extrêmement lointaines qu'il occupe aujourd'hui. La lumière émise par ces objets extrêmement lointains n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Donc cet univers-là, il est invisible, mais il n'en existe pas moins. C'est un petit peu comme une route qui existe, même si les phares en pleine nuit de votre voiture ne peuvent pas les éclairer. Mais alors donc, pour revenir à la question posée par Grechka, qu'est-ce qui existait ou est-ce qu'il existait quelque chose avant que cette étincelle, entre guillemets, qu'on va appeler l'étincelle de Planck, avant cet univers qui est l'univers primordial, la première étincelle, est-ce qu'il existait quelque chose avant?
Alors là, il faut que vous vous concentriez un peu et que vous fassiez finalement comme font les physiciens théoriciens ou les physiciens mathématiciens et que vous essayiez de vous représenter cette petite étincelle de réalité qu'on appelle donc l'atome de Planck, appelons-le comme ça. Cette étincelle de réalité, elle est déjà complète, c'est-à-dire qu'il y a déjà trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Appelons ces trois dimensions d'espace, appelons-les donc l'espace, et donnons-leur un signe. C'est ce que font les mathématiciens. Là, nous sommes ensemble, comme si nous étions dans un laboratoire, et comme si j'étais devant un tableau noir, j'écris les trois coordonnées d'espace, x, y, z, et je leur donne un signe. Un signe qui est plus, signe plus ou un signe moins. J'adopte le signe plus. Et le signe de l'espace, c'est trois signes plus. Donc, les signes longueur, largeur, hauteur, plus, 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 Y, X, Y, Z.
Attends, je voudrais juste poser une question, parce que je vois que ici à Nantes, aux Utopiales, on est extrêmement attentif à ce qui se passe ici. On peut vivre une expérience comme ça, on peut dialoguer d'une certaine façon. Alors moi, j'ai envie de poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. C'est très simple, il suffit de lever la main et ça veut dire oui, puis non, on ne lève pas la main. À votre avis, est-ce qu'on vit... Dans combien de dimensions vit-on ? Dans trois ou dans quatre dimensions ? Ceux qui pensent qu'on vit dans trois dimensions, lèvent la main.
Allez-y, vous pouvez. Hein.
Bon, donc... Personne apparemment ne pense qu'on vit dans trois dimensions. Est-ce qu'on vit dans quatre dimensions ? Est-ce que ceux qui sont convaincus qu'on vit dans quatre dimensions peuvent lever la main ?
Ah, bravo !
Bravo !
Là, il n'y a aucun doute qu'on est vraiment dans une assemblée qui a déjà une vraie intuition de la science.
Alors, autre question maintenant, très simple. Les trois dimensions d'espace, c'est donc, vous le savez, la longueur, la largeur et la hauteur. Ça, c'est les trois dimensions. Maintenant, la quatrième dimension, vous la connaissez aussi. Qu'est-ce que c'est ? Mais si, vous le savez.
Mais bien sûr.
C'est quoi ?
Le temps.
Voilà, exactement. C'est le temps. Donc, au sens fixé par Einstein dans la relativité générale, nous vivons dans l'espace-temps. C'était ça son idée géniale. C'est la relativité, toute la relativité, elle tient à ça, à cette notion d'unification entre les trois dimensions d'espace et la dimension du temps.
D'ailleurs, son professeur de mathématiques, il s'appelait Hermann Minkowski, qui était son professeur au Polytechnicum de Zurich, a, en 1908, proposé un modèle dans lequel il affirme que l'espace et le temps vont se dissoudre l'un dans l'autre comme des fantômes. Ça, c'est son expression. Et cette belle expression a engendré la toute première représentation de l'espace-temps à quatre dimensions. Donc, le professeur de mathématiques d'Einstein crée cette expression fabuleuse qu'il appelle l'espace-temps. Et bien sûr, son élève, qui est génial d'intuition, Albert Einstein, adopte tout de suite cette expression dès 1907-1908. Et à partir de là, crée la relativité générale.
Mais alors, il faut simplement, on va continuer comme ça à raisonner de manière très très simple. Lorsqu'on se pose la question de savoir ce que c'est que l'espace-temps, dans l'espace-temps, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la matière, il y a de l'énergie, mais il y a aussi une façon de nous repérer dans ce qu'Einstein appelle les événements. Les événements de l'espace-temps, qu'est-ce que c'est que les événements de l'espace-temps ? Cet événement, pour nous, il prend une forme extrêmement concrète. Par exemple, hier, lorsque je suis en dialogue avec les responsables des Utopiales et qui me disent, voilà, votre train est prévu à 10 heures à la gare Montparnasse. Là, j'ai les trois coordonnées d'espace avec la gare Montparnasse, mais j'ai aussi la coordonnée du temps, qui est 10 heures du matin. Si je viens à la gare à 10h05, le train est parti. Donc, je ne peux pas, entre guillemets, m'inscrire de manière cohérente dans un événement qui est prédit par les Utopiales. Donc, je dois être à la gare Montparnasse, devant la voie numéro 4, à 10h du matin.
Donc, ça, c'est un événement. De même, notre rencontre ici et maintenant, à cette heure-ci, précisément à cet instant, est aussi ce qu'on appelle en relativité un événement. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe une possibilité, je lui coupe la parole, de mesurer la distance entre chaque événement dans l'espace-temps. C'est ce qu'on appelle la distance d'événement. Et pour mesurer cette distance, on va utiliser un théorème que vous connaissez tous. Vous le connaissez tous, c'est le fameux théorème, le plus célèbre d'ailleurs je crois de tous les théorèmes en mathématiques, le théorème de Pythagore. Vous connaissez le théorème de Pythagore ? Je suppose que si je vous demande, là, au hasard, au hasard, de me dire le théorème de Pythagore, vous allez le sortir tout de suite. Le carré de... Alors, je le dis.
Alors,
bravo. Alors
voilà, il faut applaudir Richard Bessières. Richard Bessières, c'est quand même quelqu'un, c'est une icône de la science-fiction française.
Un grand de la science-fiction française.
Et il connaît le théorème de Pythagore, évidemment.
Ah oui, c'est lui qui nous a fait découvrir, je lui ai dit d'ailleurs tout à l'heure, quand on était enfant, on lisait déjà les ouvrages de Richard Bessières. C'est lui qui nous a fait tout découvrir.
Les conquérants de l'univers.
Peut-être que Tan X est né grâce à lui. Voilà, Richard Bessières.
Il faut l'applaudir.
Oui. Alors, Richard vient de dire le magnifique théorème, le théorème de Pythagore. Je le dis avec l'accent du professeur. Hein, on le dit ? Ou alors, Richard, tu le dis fort. Bravo !
Bravo !
Bravo, c'est
ça ! Bravo !
Exact. Pythagore, il y a quelques siècles avant Jésus-Christ, lorsqu'il découvre, parce qu'il découvre ce théorème, l'énonce de la manière la plus simple qui soit, le carré de l'hypoténuse dans un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors si je dis par exemple que Z est l'hypoténuse et que X et Y sont les deux autres côtés, on a Z2 égale X2 plus Y2. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle la métrique. Retenez bien ce mot, très important. La métrique dans un espace à deux dimensions. Si je fais la même chose maintenant dans trois dimensions, qu'est-ce que je vais faire ? Dans cette salle, je vais calculer la distance entre toi et moi, ou entre moi et Richard. Mais qu'est-ce que j'ai découvert là ? J'ai découvert une application du théorème de Pythagore dans trois dimensions. X2 plus Y2 plus Z2 égale, par exemple, W2. Et pourquoi pas maintenant ? C'est la grande question. Là, vous êtes au seuil de la physique, vous êtes là où Einstein est allé, s'est aventuré après Poincaré, après Minkowski et quelques autres, au début du XXe siècle, dans quatre dimensions. Dans quatre dimensions. Si on considère que l'espace-temps, c'est une géométrie à quatre dimensions, peu importe pour l'instant la forme de cette géométrie, mais si on considère qu'il y a quatre dimensions dans l'espace-temps, de même qu'il y a trois dimensions dans cette pièce, plus une dimension de temps, donc on peut calculer la distance qui sépare deux points de l'espace-temps, c'est-à-dire deux événements. Et qu'est-ce que c'est que cette distance ? C'est tout simplement le théorème de Pythagore dans quatre dimensions. À quatre dimensions. C'est-à-dire, on va le faire entre nous. X2 plus Y2 plus Z2 moins T2 égale, admettons, oui, C2, T2 avec la vitesse de la lumière, bien entendu. Alors, j'ai simplifié parce que j'ai mis C égale 1. Mais c'est vrai que c'est C2, T2. Oui, X2 plus Y2 plus Z2 moins C2, T2. Vous avez remarqué une chose, c'est que grâce à cette expression, bien sûr, on peut calculer la distance entre les deux événements dans un espace-temps dit de Minkowski. Mais, vous avez trois signes pour l'espace, plus, et un signe moins pour le temps. Autrement dit, la métrique qui nous permet de distinguer la distance d'événements, la distance d'univers, comme on dit, entre deux points, deux événements dans l'espace-temps, cette métrique, elle est dotée de ce qu'on appelle en mathématiques une signature, et cette signature s'écrit plus, moins. X, Y, Z pour l'espace, et T pour le temps, avec un signe moins devant.
Ça, c'est la signature dite de Lorentz. C'est Lorentz qui est un physicien, un théoricien du début du siècle dernier, hein, dans les années 1900. C'est lui qui a donc associé son nom à cet objet qui est l'objet métrique, fondamental, mais vraiment fondamental, dans lequel nous vivons tous. Nous sommes tous plongés dans la signature de Lorentz.
Voilà. Tous. Vous êtes tous avec chacun de vous, vous avez plus, moins, comme un petit badge, qui, comme celui-ci d'ailleurs, voilà, il y a plus, moins là-dessus qui est écrit. Voilà. Maintenant, pour en terminer avec ça, c'est important, parce que juste avant de te relaisser la parole, ce qu'il faut savoir, c'est que cette distance d'événement, elle est, de notre point de vue, abolie à partir du moment où on passe la fameuse barrière de Planck, c'est-à-dire quand on franchit l'instant du Big Bang, et qu'on remonte avant le Big Bang. Là, les événements n'existent plus. Le cône de lumière, comme on dit, qui rassemble tous ces événements, est fluctuant, explose, en fait, disparaît, devient évanescent. Et la notion d'événement, la notion de point même, disparaît. La géométrie régulière qui est la nôtre ici est stable, eh bien, elle disparaît aussi, cette géométrie, elle devient instable, fluctuante. La signature dont j'ai parlé tout à l'heure, selon nous, devient fluctuante jusqu'à ce que l'on puisse, par cette fluctuation de la réalité sous-jacente ou précédant le Big Bang, remonter jusqu'à un point où tout se stabilise, mais sous une nouvelle forme. C'est-à-dire que la signature de ce fameux point zéro, il existe pour nous, ce point zéro, c'est le début virtuel, en quelque sorte, de ce fameux cône de lumière. Et là, la signature n'est plus 3 plus moins, mais elle est stabilisée à nouveau, sous une forme complètement différente, impossible dans notre univers à nous, mais que l'on peut évidemment calculer et que l'on peut atteindre par ce qu'on appelle la théorie des groupes, par exemple, ou par la théorie des déformations d'algèbre que nous avons utilisées, et qui est une signature à 4 plus. Et la direction du temps qui était avec un signe moins ici, eh bien, elle est dotée d'un signe plus là-bas. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le temps réel que nous vivons et que nous mesurons par nos montres est devenu là-bas imaginaire.
Est-ce que vous, parce que ça, c'est la question quand même. Elle est vraiment importante et c'est à vous d'y répondre. Est-ce que vous pensez qu'on vit dans le temps réel ou dans un temps imaginaire? Selon vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez le sentiment que le temps a une réalité ou pas? Ceux qui pensent que le temps est réel lèvent la main.
Ben oui.
Donc il y a quand même...
Une majorité.
Enfin, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas posé la question sur le temps imaginaire. Et ceux qui pensent qu'on est dans le temps imaginaire... Il y a quand même pas mal de gens qui pensent qu'on est dans le temps imaginaire aussi. Bon, vous avez compris une chose par là, c'est qu'il y a quand même une grande proximité entre le temps réel et le temps imaginaire. Mais en même temps, cette proximité, elle est illusoire. Pourquoi? Parce que la physique nous dit que nous vivons bel et bien dans un temps réel. Et que je ne peux pas, par exemple, si j'arrive ce matin à 10h05, au lieu d'être à 10h en face de la voie numéro 4 pour aller vers le train qui m'amènera vers Nantes, si j'arrive à 10h05, je ne peux pas décider de revenir en arrière, de m'affranchir un petit peu de cette contrainte du temps, pas un peu, beaucoup, complètement, de revenir à 10h-2 pour être là au moment où le train démarre. Je ne peux pas le faire. Je peux revenir en arrière dans l'espace, c'est vrai, je peux revenir jusqu'à la voiture si j'ai oublié les clés ou ma valise dans ma voiture, mais je ne peux pas revenir en arrière dans le temps. Autrement dit, je suis soumis à une contrainte qui est imposée par la réalité du temps, qui est très mystérieuse, parce que c'est vrai que le temps, et c'est pour ça que vous avez les uns et les autres levé la main au moment où je vous demande, mais est-ce que le temps est imaginaire ou réel? Il y a quelque chose d'impalpable dans le temps qui nous entoure, dans lequel nous sommes plongés. Et néanmoins, on est littéralement plongé, littéralement prisonnier de cette quatrième dimension. On ne peut pas faire en sorte d'accélérer notre voyage qui se déroule invariablement à la vitesse de 60 minutes à l'heure. On ne peut pas l'accélérer, sauf si on passe si on bénéficie des paradoxes de la relativité et qu'on s'approche de la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas notre cas. Ici et maintenant, on ne peut pas accélérer ou ralentir le temps. Donc nous sommes bel et bien plongés dans le temps réel. Et puis j'en finirai par là. Le temps réel, lui, il est associé. C'est très fondamental. Alors il faut que vous compreniez cela, parce que si vous avez compris ça, au fond, vous avez tout compris de la relativité générale et vous aurez tout compris aussi de la réalité physique dans laquelle nous sommes plongés. Le temps réel dans lequel nous vivons est associé à quelque chose d'extrêmement important, c'est
l'énergie.
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 L'énergie. C'est ce qui fait qu'une bougie, lorsque vous l'allumez, brûle dans le temps, elle consomme sa cire, etc., mais elle brûle, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie lumineuse, c'est de l'énergie électromagnétique, il y a de la lumière, il y a de la chaleur, il y a tout ça. Et elle brûle dans le temps, à une certaine vitesse, la bougie. Mais elle ne pourra pas brûler autrement et ailleurs que dans le temps. Autrement dit, c'est du temps.
C'est-à-dire que le temps, comme l'a dit Einstein, est inséparable de l'énergie et de la matière. L'énergie et la matière, c'est la même chose. E égale mc carré, vous connaissez bien entendu cette magnifique équation qui est la plus célèbre de toute l'histoire de la science. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que ce temps réel continue d'exister avant le Big Bang? Eh bien non. Nous pensons, d'ailleurs on n'est pas les seuls à le penser, les physiciens théoriciens en général, les physiciens mathématiciens surtout, pense que le temps n'existe plus en deçà du Big Bang, le temps tel que nous le connaissons. Le temps ne peut pas exister sous la même forme. Il est remplacé par quelque chose d'autre Et quand on remonte jusqu'à l'instant zéro, eh bien, on tombe sur ce fameux temps imaginaire. Juste un mot, pour que vous sachiez ce qu'est le temps imaginaire. Ce n'est pas le temps qui serait celui, par exemple, de l'imagination fructueuse d'un auteur de science-fiction. Ce n'est pas le temps de l'imagination, pas du tout. C'est un temps qui a une existence absolument reconnue par les mathématiciens, dans la mesure où c'est tout simplement le temps, mais mesuré non pas par des nombres réels comme chez nous, mais par des nombres imaginaires. Vous savez ce que c'est qu'un nombre imaginaire ? Oui ? Hein ? Je suppose que quand on va par là-bas, vers les physiciens, mathématiciens, ils savent. Mais vous tous qui êtes ici aux Utopias, vous le savez très bien. Alors, on peut le dire assez fort, un temps imaginaire mesuré par des nombres imaginaires. Le nombre imaginaire se distingue du nombre réel en ce sens que son carré est toujours, toujours négatif. Alors que tous les nombres réels ont un carré positif. Si je fais 2 fois 2, ça fait 4. Et si je fais moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Simplement, si maintenant je prends i au carré, i c'est le nombre imaginaire, qui était d'ailleurs désigné comme ça par Descartes, i au carré, ça fait moins 1. Et 2i au carré, ben, ça fait moins 4.
Alors juste peut-être, parce que le temps file, mine de rien, il nous reste une dizaine de minutes, on va peut-être passer aux questions du public. Est-ce que c'est le moment d'en profiter. Est-ce que vous avez des questions pour les frères Bogdanov? On va vous apporter un micro. N'hésitez pas à lever la main. Pour le coup, ce n'est pas un sondage. Alors, est-ce que quelqu'un a une question?
Bonjour.
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 J'avais une question. En fait, ce n'était pas par rapport à ce que vous avez expliqué. Parce que, bon, déjà, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris exactement. C'était surtout, en fait, qu'il y a quelques temps, vous faisiez la promotion d'un livre sur de vulgarisation scientifique. Et c'était, je ne sais plus, il y a quelques temps, c'était dans une émission sur France 2, On n'est pas couché. Je ne sais pas si vous en rappelez, là, maintenant. Et donc l'animateur, M. Ruquier, s'intéressait pas vraiment à tout ce qui était science. Il ne le cachait pas du tout pendant l'émission. Et en fait, il vous coupait sans cesse la parole. Il ne s'intéressait vraiment pas à ce que vous faites. Et il a un peu l'impression qu'il a subi votre présence. Moi, la question que je me posais, c'est que d'abord, est-ce que ça vous a pas dérangé? Parce que moi, déjà, je pense que j'aurais pas tellement apprécié. Et deux, est-ce qu'on est toujours aussi, est-ce que les animateurs à la télé ou à la télévision ont toujours une attitude comme ça qu'on a l'impression que vous êtes obligés, qu'ils sont obligés de vous recevoir?
Mais c'est ce que je disais, c'est une excellente question qui reprend d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure. À propos donc de l'attitude de ceux qui font la télévision, en général, hein, les décideurs, mais aussi les animateurs en général, qui ont quand même très très peur de la science. Donc, quand on a peur de quelque chose, on essaie de réduire cet objet à sa plus simple expression. Et donc, en effet, c'est vrai que Ruquier n'était pas du tout intéressé par le contenu même. Ce n'était pas notre livre, c'était le livre d'un physicien théoricien qu'il a écrit donc, sur nos travaux pour essayer de vulgariser et d'exprimer aussi simplement que possible ce que lui, en tant que physicien théoricien spécialiste de la théorie des cordes, avait compris de nos travaux. Donc ça s'appelait, et il s'appelle toujours d'ailleurs ce bouquin-là, l'équation Bogdanov. Et donc quand on a été invité, puisque l'auteur, lui, qui vivait aux États-Unis à ce moment-là, n'a pas pu se déplacer, donc Ruquier nous a invités. Et en effet, il ne nous a pas du tout écoutés, et tout ce qui l'intéressait, c'était toutes sortes de phénomènes périphériques, mais qui n'avaient rien à voir avec l'objet même de la discussion. Encore une fois, c'est vrai que la science, à la télévision, est vraiment, elle n'est pas traitée avec, comment dire, avec le sérieux que devraient lui témoigner ceux qui sont censés en parler. Malheureusement, on le regrette. Alors Grechka et moi, c'est vrai, on a beaucoup de mal à faire circuler ce message-là au sein des des responsables de la télévision. Quand on est invité sur une émission, on a à peu près, je crois, 5 minutes pour parler de science et une heure pour parler de bêtises, enfin, de choses qui n'ont absolument aucun rapport. Malheureusement, c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oh là, c'est parti. Alors, peut-être monsieur au premier rang, puis on passera à vous juste derrière.
Oui, bonsoir. Ma question est plus, enfin, vis-à-vis plutôt mathématiques. Je m'intéresse beaucoup sur le signe moins, en fait. En fait, vous utilisez une norme euclidienne pour calculer une distance entre deux points dans un espace à quatre dimensions, c'est ça?
Oui.
Et j'ai du mal à comprendre. Si jamais x au carré, y au carré et plus au carré, enfin la somme de x au carré, y au carré, t et z au carré est inférieure à t au carré, on se retrouve avec une racine de quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'on va avoir une distance entre deux points qui va être complexe. Sauf si je fais une erreur.
Oui, quand on regarde la métrique et sa signature, on peut jouer, alors, sans entrer trop dans les détails, mais on peut jouer effectivement sur ce qu'on appelle les séparations genre-temps ou les séparations genre-espace. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, on peut avoir des séparations, enfin, disons, des distances genre-temps ou des distances genre-espace. C'est ce qui fait le charme de la métrique de Lorentz, c'est qu'on peut effectivement trouver des séparations genre-temps et des séparations genre-espace qui font qu'on peut faire basculer la métrique d'un côté ou de l'autre. Je voudrais juste conclure par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, justement sur cette métrique. La métrique d'espace-temps, elle est celle que nous connaissons, donc que vous avez décrite, 3 signes plus et 1 signe moins. Maintenant, la métrique d'avant le Big Bang à l'instant zéro, c'est-à-dire ce qu'on appelle la singularité initiale de l'espace-temps, le point zéro de l'espace-temps dont tout part en définitive, qui est un point mathématique, eh bien, nous pensons que la métrique existe, mais sous une forme qui est très différente, puisque sa signature est à 4+. Et dans ce cas, comme on est sorti donc de la signature 3+-, qui, elle, paramétrise les différents états d'énergie, on entre dans une nouvelle configuration, et c'est vraiment fascinant, où cette métrique est en quelque sorte amenée à paramétriser quoi ? Tout simplement, ce qu'on appelle en science de l'information. De l'information. Et ça a pour conséquence quelque chose de gigantesque. De gigantesque. Ça signifie que l'univers, qui est physique, qui est matériel, qui est fait de matière et d'énergie à notre échelle aujourd'hui, nous savons, cette table, c'est de la matière, cette lumière, c'est de l'énergie, eh bien, à l'instant zéro, c'est remplacé par quelque chose qui n'a plus rien de matériel et qui est de l'information. Autrement dit, si on regarde cette information sous une expression mathématique, puisque toute information est faite effectivement de digits, c'est-à-dire c'est un code.
De 0 et de 1.
De 0 et de 1, c'est un code mathématique. À partir de cet instant-là, on peut considérer qu'à l'instant zéro, c'est-à-dire à l'origine de l'univers, existe une écriture mathématique qui évoque un code que l'on qualifiera, Igor et moi, de cosmologique, qui a une étrange similitude, si on peut dire, en tout cas, qui évoque de loin ce qu'on appelle le code génétique pour un être humain. Avant même que nous tous nous existions, nous étions précédés par une écriture mathématique qu'on appelle le code génétique. Eh bien, c'est la même chose de notre point de vue pour l'univers. Et nous pensons qu'effectivement, l'instant zéro représente cet instant très mystérieux, énigmatique, où l'univers tout entier n'était encore qu'une expression mathématique, c'est-à-dire quelque chose de totalement immatériel, de totalement irréductible à la matière, qui est donc de l'information que d'autres, les métaphysiciens notamment, ont pu appeler l'esprit. Mais en tout cas, c'est bien de ça dont il s'agit. Et le débat profond qui aujourd'hui commence à apparaître dans la communauté scientifique et qui un jour va secouer la communauté scientifique, à mon avis un jour pas très lointain, parce que les expériences évoluent et que, en un certain sens, la science va très vite, notamment grâce à des expériences importantes comme celle qui est aujourd'hui en route depuis le 14 mai, qui est le lancement du satellite Planck, qui va nous permettre de sonder l'univers très tôt dans son histoire. Eh bien, la conclusion, c'est que une nouvelle représentation de la réalité va probablement émerger, au terme de laquelle on comprendra que l'univers, dans son essence même, n'est pas réductible à sa composante purement matérielle. J'en termine d'ailleurs par une très très belle citation qui a été produite par Einstein à un enfant. C'était en 1936. Il était à Princeton et Einstein est abordé par un jeune garçon de 10 ans qui lui demande « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et Einstein ne lui répond pas tout de suite, il prend une feuille de papier et il lui demande « Donne-moi ton adresse. » Et l'enfant donne son adresse et une semaine après, il reçoit de la main d'Einstein cette réponse que je connais par cœur, tellement sa beauté est grande, et vous allez voir qu'elle est extraordinaire. Il lui répond « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront un jour par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » C'était en 1936, et c'est le père de la relativité et de la fameuse équivalence entre l'énergie et la matière qui a donc donné cette ouverture vers une autre équivalence qui nous paraît tout aussi importante entre d'un côté l'énergie-matière et de l'autre son dual que nous appelons l'information.
Alors, il nous reste 120 secondes pour une dernière question. Peut-être monsieur là-bas qui vient de lever la main.
Oui, rebonjour. Je tenais à vous remercier bonjour. D'ailleurs d'être venu aux Utopiales pour une seconde fois. Et je voulais revenir à temps X plus précisément. Je voulais savoir si votre volonté d'avoir fait passer Star Trek dans temps X était déjà un mélange pour vous de la science-fiction et de la science, sachant qu'à l'époque, Star Trek avait lancé énormément de choses, comme le téléphone portable, les ouvertures de grandes surfaces. C'était quand même Star Trek à la base, le scanner. Et je voulais savoir si votre vision de Star Trek avait déjà pour vous une importance pour transmettre cette information en France. Vous voyez un peu la question. Si déjà vous aviez perçu Star Trek comme quelque chose de science-fiction, mélangeant science-fiction et science.
Ben oui, bien sûr, parce que dès que nous avons découvert aux États-Unis, parce que on est allé aux États-Unis pour chercher des séries dans les années, c'était à la fin des années 81-82. On a été aux États-Unis, on a été chercher des séries. Et c'est là que nous avons rencontré, donc nous avons trouvé Star Trek, qui n'était pas doublé en français. Et là, on a tout de suite perçu qu'il y avait en effet une rencontre idéale entre l'imaginaire et le réel, entre la science et la science-fiction. Parce que c'est vrai que les aventures dans lesquelles étaient plonger le capitaine Kirk et son équipage était le cadre vraiment typique, idéal du space opéra, c'est-à-dire en fait un champ immense où la... puisque c'est l'univers, hein, comme dit le capitaine Kirk, tout droit. Donc on met le cap sur l'infini. Et c'est l'infini des questions justement abordées par la science, mais évidemment projetées sur le... comment dire, sur cet extraordinaire fond romanesque que proposait donc le space opéra de Star Trek. C'est ce décor-là, c'est cette richesse-là qu'on a tout de suite senti. Et bien entendu qu'on a... alors ça n'a pas été facile parce qu'à TF1, à l'époque, ils ne voulaient pas en entendre parler en disant « mais non, ça ne marchera pas, c'est pas possible, etc. » Et en fait, évidemment, ils se sont trompés parce que Star Trek a été tout de suite un très très grand succès. Et on a rediffusé plusieurs fois les mêmes épisodes.
D'ailleurs, je recommande pour tous ceux qui sont des fans de Star Trek et qui vont dans le sens, donc un livre qui va dans le sens de ce que vous dites à propos de la science qui est sous-jacente à Star Trek, c'est un livre qui est fait par un physicien, astrophysicien, qui s'appelle Lawrence Krauss. Et le titre de ce livre, vous allez voir, c'est « La physique de Star Trek ». Donc en fait, il se pose des questions très, très naïves de physicien. Est-ce que ce qui est dit... dans les épisodes de Star Trek a un fondement physique et il y répond. Vraiment, le livre est passionnant et je vous le recommande à tous.
Voilà. Je crois qu'on va conclure là-dessus puisque le temps imparti pour le coup est terminé. Merci à vous d'être venus, merci à tous d'être venus.
Merci à vous.
Et restez sur place.
Merci.